Au début du siècle dernier, vivait en Périgord, aux Aisies de Taillac ou à Rouffignac-Saint-Cernin, un certain Jean Marsan, qu'on appelait Jean le Pêcheur, sans doute parce qu'il excellait à sortir de l'eau les saumons et les truites, les alloses. Se nommer Jean le Pêcheur, paysan pauvre ou journalier, comme je l'imagine, ayant trouvé dans ses prouesses à la pêche et les contes qu'il en faisait, une noblesse et une richesse symbolique que sa naissance lui avait refusée, était tout désigné pour être curieux de cette autre richesse purement symbolique qui avait toujours existé, mais dont on s'avisait seulement alors et qui mettait la région en grand émoi, les filons préhistoriques des grottes. Il était parfaitement apte à être embauché pour une de ces fouilles anarchiques qui se multipliaient alors. Il fut embauché. Et un beau jour de 1912, il découvrit, près de la Brillarté, dans la gorge d'enfer, en levant la tête vers le plafond d'une grotte qui n'avait pas encore de nom, un bas-relief d'un mètre de long. Un saumon. Sa plus belle prise, en somme. Cette prise vaut à cette grotte modeste d'apparaître dans les livres savants et les guides sous le nom d'abri du poisson. Et les guides ne manquent pas d'ajouter qu'elle fut découverte par Jean le Pêcheur, au nom prédestiné. Il l'était, certes, et c'est grâce à ce même Jean Marsan, à ce pêcheur superlatif, dans l'eau comme sur roche, que vous me demandez, cher Romain Bondonneau, quelques lignes pour cette livraison de sédiments consacrée aux animaux. Je m'explique. Dans les années 1990, j'avais l'idée d'un récit, l'origine du monde, dont les héros véritables, ceux qui gouvernaient toute l'organisation imaginaire, devaient être ce que Lévi-Strauss a appelé des animaux « bons à penser ». Un renard, des carpes, une grue, un cheval tartare. J'hésitais sur le lieu où les déployer, et les laisser se débrouiller entre eux, s'accoupler, ou se manger, ou les mettre. Un hasard voulut qu'on m'offrit alors le volumineux album des grottes ornées paléolithiques françaises. Je le feuilletai. Il s'ouvrit tout naturellement à la page 154. Je lus « Abri du poisson ». Je vis reproduit en pleine page le saumon de pierre qui remonte interminablement le cours du temps. La tête un peu haute, la ligne dorsale droite, la ventrale convexe, une flèche, le nageur prodigieux. Je lus. Alors qu'il reprenait la fouille en 1912, Jean Marsan, dit Jean le Pêcheur, au nom prédestiné, découvrit le célèbre poisson sculpté en bas-relief. Je compris que j'avais trouvé le lieu, la place exacte. Le pôle magnétique de l'animalité, le département de la Dordogne. Il me suffisait de prélever le nom merveilleusement emblématique de Jean le Pêcheur, d'en faire un personnage qui nous soit contemporain, non pas découvreur de grottes, mais pêcheur superlatif, pêcheur archaïque, un chasseur-cueilleur attardé, comme disent les ethnologues. Celui vers qui accoururent truites et carpes, parce que, comme je l'ai écrit dans ce texte, il a vu en rêve le grand esturgeon. Vers lui bondir sans se faire prier mes animaux songeurs, renards et grues et petits chevaux tartares. Et pour faire bonne mesure, j'appelais ce récit la Grande Bonne, le ruisselet du coin, auquel je donnais les proportions du fleuve très antique, l'eau mythologique, la Vézère. La Dordogne n'est pas un lieu, c'est un surcroît de lieux. C'est qu'il existe là, sous la terre, quelque chose d'énigmatique. Dans un bunker à flanc de colline, à 200 mètres de la Vézère, cadenassé comme le sont les réserves d'or américains de Fort Knox, le référent or, United States Bullion Depository, bouclé derrière quatre sas gît le référent animal universel, l'étalon or, l'étalon cuir et mufle et corne. Celui en l'absence duquel peut-être tous les animaux de la terre, les vaches avec leurs veaux, les biches avec leurs fans, les chiens qui nous rassurent et les serpents qui nous effraient, les petits loirs et les grands chevaux, les humbles araignées même, perdraient tout sens et valeur, s'aboliraient dans un songe ou un simulacre, comme peut-être a perdu tout sens et valeur la forteresse de Fort Knox depuis que, vers 1970, de savants économistes ont décrété le flottement généralisé des monnaies, qu'aucun or ne garantit plus. Fort Knox est toujours là cependant. Même si l'or n'existe plus, il est bon d'en garder le symbole, et même de doubler la garde, avec des chars, des troupes armées jusqu'aux dents, des sas. Derrière les quatre sas de Lascaux, donc, règne dans le noir le référent animal universel. Ceux qui franchissent les sas et allument les lumières vérifient de leurs yeux trois notions qui sont peut-être des essences, peut-être des valeurs, peut-être seulement des croyances, des on-dit. L'animalité, l'art, l'origine. Ces trois grands mots ont parti liés. Ces trois incommensurables sont réunis là et emmêlés en une sorte de pelote. Nous ne pouvons la démêler. Quel fil tirer ? L'animalité, la bête que nous sommes et ne sommes pas. L'art, c'est-à-dire la beauté et la justesse qui transitent miraculeusement de nos sens et notre cerveau à notre main. L'origine, l'origine de quoi ? Toutes ces questions où s'épuisent à vide depuis 3000 ans le laïus philosophique et depuis un peu moins longtemps l'approximation scientifique, ne sont que de l'écume bourgeonnant au flanc des grandes bêtes, une concrétion inessentielle, comparable aux moisissures qui apparurent sur les peintures et nécessitèrent objectivement la mise en place des sas, la mise au secret, qui peut-être les rend à leur destination première, celle de n'être pas vus. Il me plaît de penser à l'instant où les paléontologues et les géologues repartis, les loupiottes éteintes, les grandes apparences animales ne sont plus visibles. Elles sont dans la nuit, leur nuit qui est leur lieu. Les questions n'ont plus cours, dans le noir, pour personne, sans adresse. En elles-mêmes retirées. Invisibles, elles l'ont été certes pour l'homme moderne avant leur découverte, mais on peut penser aussi qu'elles ont été faites dans le but de n'être pas vu, ou de n'être vu que très épisodiquement, pas à tout moment, pas par tout homme. Pour rentrer dans le bunker, il fallait un pass. Le vieux chaman a sans doute jeté cette clé dans la Vézère, dans le noir, pour personne. Comme ces animaux primitifs qui développent un apparat morphologique éclatant, que ni eux, ni leurs congénères ne peuvent voir, à défaut d'œil, dont leurs espèces sont dépourvues. La plupart des mollusques marins ne voient pas leurs resplendissantes coquilles. Les éthologues appellent ces éclatantes constructions des apparences inadressées. Les mollusques aveugles les font cependant, pour rien, pour la beauté du geste peut-être, en pure perte pour leur espèce, en pur gain pour la diversité illisible du monde. Au contraire des écritures, la caverne peinte est comme ses coquilles. Elle sert à stocker de la configuration, pas à la faire circuler, à bloquer le sens et la valeur, et non pas à les partager. C'est de l'or, pas du papier monnaie. Les grandes vaches bondissent suspendues. On ne le voit pas. Le grand esturgeon dort. On ne le voit qu'en rêve. Il est le référent. Il n'est là pour personne. Sur cette absence, les espèces et les récits croissent et se multiplient. Il le permet. Tout va bien.